Bienvenue sur Terre Commune, une émission bimensuelle sur votre radio CFM qui parle de biodiversité, d'écosystèmes et de nature sauvage. Je suis Anthony Vigard, animateur et naturaliste de l'entreprise Vulgaris Terra. Nous retrouvons tout le long de l'année afin de parler des écosystèmes qui nous entourent, des espèces animales parfois végétales, des oiseaux, des lieux secrets qui peuplent encore notre campagne. Toutes ces thématiques autour de la nature sauvage ont pour but de vous faire découvrir et de vous sensibiliser à tous ces êtres vivants avec qui nous partageons notre terre. Aujourd'hui, nous allons parler de nouveau du Canis lupus, c'est-à-dire du loup gris. Et donc c'est la deuxième partie de la première émission. Donc on va continuer sur ce vaste sujet qui était le loup gris et les problématiques que nous avons en France avec lui. En tout cas les problématiques essentiellement politiques et agricoles, puisque ce sont toujours des minorités qui s'en prennent toujours à des populations animales qui ne peuvent pas riposter. Il y a eu 15 jours entre l'émission de la première partie et la deuxième. Et en ces 15 jours, il s'est passé quelque chose d'assez dramatique en France et voté par les députés de l'Assemblée nationale. Il y a eu cette loi sur l'urgence agricole qui a été votée essentiellement et encore une fois contre la biodiversité et votée en grande partie par l'extrême droite, la droite et la Macronie. Donc en gros, pour vous faire un résumé, en tout cas pour vous parler essentiellement que du loup, parce qu'il y a des aberrations sur les méga-bassines qui vont être, les projets vont être facilités sans avoir d'études environnementales. Mais en tout cas pour parler vraiment essentiellement du loup, et là où ça en est vraiment dramatique, c'est-à-dire que je vais vous lire un tout petit peu ce qui a été voté. Donc, inscription dans la loi de quotas d'abattage de loups par un arrêté revu chaque année. Donc, ça existait déjà. C'est-à-dire, j'en avais parlé déjà la dernière fois. On avait 186 loups, 196 loups à certaines années qui pouvaient être abattus légalement, malgré le fait qu'il avait un statut protégé. Aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit dans l'autre émission, son statut à l'échelle européenne a été amoindri de la Convention de Berne et de la Directive Habitat. Donc chaque pays fait un peu ce qu'il veut, et c'est ce qu'est en train de faire la France depuis l'année dernière, depuis que cette loi a été passée à l'échelle européenne. Et donc, il y a quelques jours de cela, en tout cas dans la période où nous sommes, la loi a été votée pour que l'abattage, en tout cas que le quota d'abattage du loup, soit vraiment, plus que légal, puisque le loup a été également sorti des espèces protégées en France. Et donc, ils vont lui conférer un statut complètement à part, des espèces qui sont déjà protégées, comme la loutre, on en a parlé dans une autre émission, ou le castor, ou... j'ai plus d'idées, mais voilà, en tout cas, lui va avoir un statut très spécifique, que à lui, donc qu'il ne va pas être dans les espèces protégées. Et c'est vraiment dramatique. Encore un autre point... le Rassemblement National a fait introduire un droit à la légitime défense par les éleveurs, donc qui peuvent désormais abattre les prédateurs sans autorisation préalable de l'État. Donc c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, c'est-à-dire que je suis agriculteur, éleveur de bovins. J'ai le soupçon d'avoir un loup qui traîne autour de mon cheptel, et bien je prends mon fusil et je tire à vue sur un loup sans qu'il ait déjà attaqué mon troupeau, sans qu'il ait et sans que surtout je ne mette en place des actions de protection dont on avait parlé dans l'émission précédente, c'est-à-dire des clôtures électriques, c'est-à-dire des chiens de troupeau, c'est-à-dire des bergers. Voilà. Donc, je ne mets pas ça en place et j'ai un soupçon de loup. J'ai un loup qui passe à côté de mon troupeau qui n'a pas encore attaqué. C'est pas grave. C'est de la légitime défense. Ça a été voté. Je peux tirer. C'est n'importe quoi de faire ce genre de choses-là. C'est vraiment n'importe quoi. Et dernier point sur le loup, et qui est encore mais une absurdité sans nom. Maintenant, il est autorisé d'avoir des tirs de défense à l'intérieur des réserves naturelles. Donc, c'est-à-dire que, eh ben voilà, on est dans le parc régional, parc naturel du Grand Causse ou enfin de l'Aubrac pour en tout cas parler de l'Aveyron, et ben les tirs maintenant sur les loups, alors qu'avant c'était vraiment illégal et il n'y avait que du braconnage, pas de tir même de la part de louvetiers sur ces territoires là, et ben là c'est totalement autorisé. Donc c'est à dire que le loup est vraiment devenu l'ennemi public numéro un par le système agricole, par le système, enfin par les lobby de la chasse, et donc du coup influencé par le gouvernement et les députés qui, pour la plupart en tout cas, font partie, ont un pied dans ces lobbies-là, ou en tout cas copinent extrêmement bien avec eux. Donc c'est vraiment catastrophique d'avoir de nouveau à faire très attention à une espèce qui, comme je le disais, n'est pas non plus stabilisée en France. À peine 1000 individus en France, à peine, pas encore implantés sur tout le territoire. La problématique du loup n'est pas le loup, mais le gouvernement, en tout cas la politique qui est mise en place autour de cet animal-là. Si le gouvernement mettait réellement l'argent à aider les agriculteurs et les agricultrices, les éleveurs, les éleveuses, les bergers et les bergères à protéger leurs troupeaux, à les aider financièrement. Alors attention, moi j'en entends hein, des gens qui me disent aussi des naturalistes ou des pro-loups qui me disent oui mais de toute façon les agriculteurs ils sont subventionnés, sont financés, on leur paye tout, on va pas tout faire non plus. Alors c'est pas vrai, qu'on soit bien d'accord. C'est pas comme ça que ça se passe non plus. Les agriculteurs et les éleveurs n'ont pas tout qui leur est payé, puisque en fait ça fonctionne par zonage sur un département, en tout cas sur un territoire. Si je prends par exemple le département de l'Aveyron, on a deux endroits, deux gros endroits où il y a une zone, ou en tout cas où les communes sont zonées parce qu'il y a des attaques de loups dues aux meutes de loups qui sont installées sur la région, essentiellement sur le Larzac et sur l'Aubrac. Donc ces communes-là, elles sont en zone 1, elles sont donc indemnisées si elles ont des mesures de protection. En tout cas, ça, c'est dans l'idéal des choses. Donc, indemnisées si un animal a été attaqué, tué, si des chiens de berger doivent être achetés, nourris, entretenus, s'il y a des clôtures qui sont mises en place, s'il y a des bergers qui sont employés pour surveiller le troupeau. Tout ça, du coup, on est bien d'accord, c'est subventionné si on est en zone 1, zone 2, zone 1, zone 0, et en zone 2, c'est que la moitié qui est subventionnée, d'accord ? Ce qui est incroyable, incroyable en Aveyron, le seul département de la France où ça fonctionne de cette manière-là, c'est que sur la moitié du territoire, du sud du territoire, en fait, les lobbies agricoles ont réussi à expliquer à la préfecture que les territoires n'étaient pas du tout protégeables. Donc, qu'il était impossible de mettre des clôtures, qu'il était impossible de mettre des chiens de troupeaux de protection, que ça soit impossible de mettre des bergers. Du coup, la préfecture a décidé de dire « Ah, bon, bah d'accord, si on ne peut pas faire tout ça, eh ben, si vous avez la moindre attaque, même si vous ne protégez pas vos troupeaux, vous êtes quand même indemnisé à 100%. » Et ça, c'est incroyable, parce que c'est de la mauvaise foi, pour le coup, de la part des éleveurs, en tout cas de la part des lobbies agricoles et des syndicats agricoles, parce que c'est possible. C'est possible. Si l'État derrière vraiment soutenait les agriculteurs et les agricultrices. Donc en fin de compte, c'est vraiment un problème politique. plein d'éleveurs, plein de bergers, plein d'agriculteurs avec qui j'ai pu m'entretenir, avec qui j'ai pu discuter dans les Alpes, dans les Pyrénées, dans le Massif central et même sur des endroits avec des plaines comme la Saône-et-Loire. Tous, alors peut-être pas tous, pardon, mais en tout cas, beaucoup, beaucoup d'entre eux sont pour la cohabitation avec le loup. En fait, c'est quelque chose qui est naturel. Ce sont des personnes qui travaillent avec la nature, qui veulent aller vers la nature, et donc, du coup, prendre en compte la biodiversité qui les entoure. Donc, le loup en fait partie, et c'est surtout que le loup apporte quand même... sans le loup, dans certaines régions, il n'y aurait plus de bergers. Vous comprenez ce que je veux dire un petit peu ? On a... Je vais partir un peu de la France, mais on a en Italie, dans les Abruzzes, un choix politique qui a été fait il y a des dizaines d'années sur le fait de ne plus attaquer le loup, de le protéger à 100%. Pareil pour l'ours, de ne plus pratiquer la chasse sur ces territoires-là et de faire en sorte qu'il y ait du pastoralisme et du tourisme autour du loup, autour de l'ours. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les Abruzzes, c'est une réussite totale. Alors, j'entends parfois qu'on me dise « Oui, alors il y a des loups qui sont empoisonnés, qui sont tirés, comme partout. » Voilà, le braconnage fait partie, malheureusement, du paysage agricole et de la biodiversité. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Tous ne sont pas forcément heureux dans les Abruzzes d'avoir du loup qui est là, mais par contre... 90% des personnes en sont satisfaites et travaillent, ont réussi à avoir du travail. Il y a beaucoup plus de gardes du parc, il y a beaucoup plus d'agriculteurs, beaucoup plus d'éleveurs, beaucoup plus de bergers. Et tout ça, on a fait une économie. C'est une des régions de l'Italie la plus prospère. Donc, ne nous trompons pas de cible. Le loup, lui, n'est pas fautif de tous les maux et de toutes les problématiques du monde agricole. C'est plutôt bien le gouvernement qui est fautif de ça. Voilà, je voulais remettre un petit peu les points sur les i après cette annonce de malheureuse de cette loi de sécurité agricole qui a été votée, qui est encore dramatique. Je le redis. Avant de passer donc à de nouvelles explications autour du loup gris, de son fonctionnement, je vous propose qu'on puisse écouter justement une chanson de lutte qui va bien avec le discours que je viens d'énumérer, avec la chanson « Ça ira, la lutte est belle ».
Mais quand chanterons-nous le temps des cerises? Oh, et partisans, c'est l'alarme.
Avec ou sans papier, solidaire, on résiste motivé pour la lutte finale.
Car on entend déjà la révolte qui gronde de Paris jusqu'à Nouméa. Et gare à la revanche, c'est la fin de leur monde. Si l'on tire en son lit, il tombera.
Allez, vamos, andia, moyala, la lutte est belle, ces chansons éternelles. Allez, allez, même s'ils ne le veulent pas, on est là, amis ou camarades, continue le combat. Ça ira, on est là, regarde pas en bas, c'est là où qu'on nous broie. Ça ira, on est là, regarde pas en bas, c'est là-haut.
Allez,
vamos, andiamo, yalla, la lutte est belle, ces chansons éternelles. Allez, même si
gilets jaunes et communes, des corons au canut. On chante l'honneur des travailleurs. On l'appellera révolution permanente si les lourds entrent dans Paris. Crions pour éviter les semaines sanglantes. Siamo tutti antifascisti.
Allez, vamos, andiamo, yalla. La lutte est belle, ces chants sont éternels. Allez, même s'ils ne le veulent pas, on est là. Amis ou camarades, continue le combat. Ça,
et c'était la lutte est belle, ça ira, que vous avez entendu sur CFM Radio, et vous êtes de nouveau dans l'émission Terre Commune. Alors nous avons parlé donc du changement de statut du loup et des problématiques qui vont en découdre. Et justement, je parlais des attaques juste avant cette chanson. Je parlais des attaques qu'on pouvait avoir sur le troupeau. Je vais revenir un petit peu sur le régime alimentaire du loup pour qu'on soit quand même assez au clair là-dessus. En fait, le loup, il est souvent présenté comme un grand prédateur de bétail. Mais en fait, c'est une vision assez réductrice de cet animal-là. C'est-à-dire qu'en réalité, il a vraiment un régime alimentaire qui est plutôt composé en grande majorité d'animaux sauvages. Il chasse principalement des ongulés, comme le chevreuil, le cerf. On va avoir aussi en grande partie dans son régime alimentaire le sanglier, tous ces proies-là vont constituer essentiellement donc, son régime alimentaire d'animaux sauvages. Dans certaines régions où il y a énormément de populations de sangliers, du cerf on en parlera peut-être dans une autre émission, mais en tout cas pour le sanglier, on a vraiment des effets sur les populations de sangliers. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le sanglier, il y a quelques années de ça, quand je dis quelques années, c'est quelques décennies, a été croisé avec le cochon, avec le porc, et ce qui fait qu'il a une reproduction bien plus développée que le sanglier sauvage qu'on pouvait avoir autour de nous. Aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, on a essentiellement, en grande partie, du sanglier qui a été croisé. Donc on a une reproduction énormissime de sa part, et en plus du fait qu'il fasse beaucoup moins froid les hivers, il y a très très peu de mortalité chez justement les marcassins. Donc, on a une population grandissante qui vraiment se développe, et en plus de ça, à cause du réchauffement climatique de l'hiver, peut faire même jusqu'à 2 portées par an au lieu d'une. Donc ça fait une énorme population. Les loups qui sont sur ces territoires-là de sangliers vraiment arrivent énormément à stabiliser les populations de sangliers. Alors c'est sûr que à chaque fois qu'on y met un petit peu notre patte, quand il y a un plan de chasse ou ce genre de choses, c'est sûr que ça dérange effectivement les chasseurs qui aient un peu moins de sangliers, mais on se plaint aussi qu'il y a trop de dégâts liés aux sangliers. Bon, je vous laisse réfléchir et faire votre avis là-dessus, moi j'ai le mien. Mais en tout cas, on a donc cette population-là de cervidés et de sangliers qui sont essentiellement, en tout cas, le régime alimentaire du loup. On va avoir, sur les attaques de troupeaux, parce qu'on en a parlé un petit peu, je vais revenir dessus un petit peu plus en détail. Donc, ce sont généralement des contextes très particuliers. On a parlé de l'émancipation et de la dispersion du loup, donc des loups seuls qui peuvent attaquer les troupeaux, puisqu'ils n'ont pas leur meute qui leur facilite justement la chasse. Là, aujourd'hui, on va avoir donc ces attaques qui vont être souvent... Clairement, on est presque à 90% des attaques sur les troupeaux sont liées au fait qu'on n'ait pas de protection. Donc, il n'y a pas de grillage électrifié, de clôture électrifiée. Il n'y a pas de chien de protection, style patou. Et il n'y a pas de berger. C'est malheureux parce que, pour avoir parlé avec beaucoup de bergers sur le territoire français, ces bergers-là ont envie... en tout cas de développer leur métier. Ils ont envie d'avoir plus de rémunération. Tout à l'heure, je parlais d'un problème politique. je ne comprends pas que le métier de berger ne soit pas plus mis en avant et surtout plus défendu, rémunéré, stabilisé. C'est un métier qui est tellement dur, qui est tellement précaire, que en fait énormément de bergers arrêtent de l'être et ne sont pas absolument pas soutenus. Donc voilà, sur à peu près les lieux où il y a ces mesures de protection qui sont mises en place, c'est extrêmement positif. En fait, les chiffres sont très bons. On a très très peu d'attaques sur des troupeaux qui sont protégés réellement. Donc voilà, je voulais quand même revenir là-dessus. Juste avant de finir cette émission-là, je voulais quand même parler aussi du rôle de l'association Férus, que je voulais mettre un petit peu plus en avant dans ces deux émissions-là. Férus est une association qui travaille et qui lutte pour le maintien, la protection et la réintroduction des grands prédateurs de France, c'est-à-dire l'ours, le lynx et le loup. Et depuis plus de 25 ans, Férus a mis en place un programme qui s'appelle Pastoraloup. Et en fait, cette mise en place-là, elle accompagne les éleveurs sur le terrain en apportant un soutien concret et notamment pendant la période sensible, donc estivale, de pastoralisme et d'élevage. Et en fait, comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'il y a des bénévoles qui sont formés par des référents Férus de chaque département ou de région. Et ces bénévoles-là vont passer la nuit avec le troupeau bénévolement. C'est-à-dire que là, on propose aux éleveurs de gratuitement qu'il y ait des personnes qui viennent dormir. Alors, dormir, non, parce qu'en fin de compte, ce n'est pas pour ça, mais qui viennent passer la nuit, veiller sur le troupeau avec des lampes, avec du bruit, pour pouvoir justement permettre aux éleveurs de pouvoir passer une nuit tranquille. Depuis 25 ans, sur ce programme, 100% du programme a fait qu'il n'y a eu aucune attaque de loup sur les troupeaux lorsqu'il y avait des bénévoles de ce programme Pastoraloup dans les exploitations. Donc c'est quand même extrêmement encourageant. C'est incroyable que, comme je le disais encore, c'est politique, parce qu'en fin de compte, le gouvernement pourrait soutenir ce genre d'initiative-là. Ça existe en France, ça existe aussi en Suisse, alors avec une autre association. Et chez nous, en Aveyron et dans les départements limitrophes, dans le Lot et dans le Cantal, l'association existe également. Elle est portée par Myriam Calmejean. Et en fait, on peut faire, vous pouvez vous renseigner, vous, n'importe qui, jeune, vieux, passionné de nature ou retraité ou étudiant, peu importe, vous pouvez vous rapprocher de cette association-là. Cette année, le week-end de formation pour pouvoir justement passer l'été, quelques nuits de son été, à surveiller les troupeaux, se fait du 27 au 28 juin. Je vous conseille d'aller sur le site de Férus, hein, tout simplement en écrivant férus.fr, donc c'est férus.fr, et de suivre justement, alors si vous êtes dans l'Aveyron, le Cantal ou la Lot ou ailleurs en France, parce que ça se passe un petit peu partout, il y a un pastoraloup en Bretagne et évidemment dans les Alpes également, et ça va se développer de plus en plus, j'en suis certain, pour ça. Donc Férus, allez soutenir cette association-là, soit avec votre temps, soit avec votre énergie, ou même en faisant un don. Il y a une gazette également qui existe, qui vous est envoyée, une gazette papier avec toutes les nouvelles sur justement paroles d'ours, paroles de lynx, paroles de loup, qui sont mises en place par cette association qui lutte encore une fois pour la protection du loup. Et c'est ce que nous voulons absolument, en tout cas du côté des gens qui réfléchissent pour la biodiversité. Voilà, en tout cas, sur le loup, je vais vous laisser là-dessus. Il est temps pour moi de passer à une autre, un autre sujet dans une prochaine émission. En attendant, vous retrouverez toujours Terre Commune dans 15 jours dans une nouvelle émission qui sera consacrée à un autre sujet. En attendant, je vous souhaite une excellente journée ensauvagée. À très bientôt. Ciao, bye. Thank you.